Alors depuis toujours, le monde, les hommes, ont appris à essayer de discerner ce qui est nocif pour eux, c'est-à-dire pour leur corps. Parfois, il y a un poison, quelque chose qui est nocif, et on apprend à discerner eh bien, qu'on peut être intoxiqué d'une manière lente, et donc il faut voilà, éliminer. Je vous donne un exemple. Par exemple, le plomb. Donc le plomb a été souvent, pendant longtemps, des causes de malformations, de morts, de vrais problèmes, de souffrances. J'ai même lu que dans la société romaine, dans le temps, eh bien, il y a eu du saturnisme. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient de la vaisselle, des récipients, toutes sortes de choses, même des canalisations en plomb. Et donc, ils ont été intoxiqués. Aujourd'hui, on s'inquiète des nanoparticules. C'est toutes petites particules de la taille d'un virus que eh bien, j'ai lu qu'on mettait ça aussi dans la nourriture pour fixer des colorants ou ce genre de choses. Alors, évidemment, on s'inquiète parce qu'on n'a pas de recul par rapport à ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner à long terme ? Et on peut vivre comme ça un empoisonnement tout petit, mais progressif, hein, qui a des effets eh bien, nocifs sur le corps. On sait aussi que la contamination, elle affecte premièrement les jeunes, les enfants, les plus jeunes. Parce que l'adulte est développé et il a des moyens de défense hein, contre un empoisonnement qui sont plus développés qu'un enfant. Et il retient moins le poison, il évacue plus facilement. Par contre, la jeunesse, elle est vite affectée parce qu'elle est en développement, le corps est en train de se développer. Alors, c'est pas d'alimentation que j'aimerais vous parler ce matin, vous devinez. Hein. J'aimerais vous parler d'une autre intoxication qui n'est pas alimentaire, c'est l'intoxication de l'esprit, qui peut être aussi progressive, lente, petit à petit. Et c'est une intoxication qui concerne la manière de vivre, la manière de penser. Quand vous regardez le monde, qu'est-ce qu'il a changé ? En 200 ans, c'est incroyable ce que le monde a changé, la technologie, tout ce qui a évolué, hein, toutes les découvertes modernes. Il y a seulement 100 ans, c'était impossible d'avoir un petit objet comme ça et de téléphoner déjà, hein, de calculer, de regarder des images animées, de jouer de la musique, de prendre des photos, de prendre des vidéos, de consulter une bibliothèque mondiale où il y a toute la connaissance finalement humaine, et puis de pouvoir parler à quelqu'un qui est en Australie ou aux USA comme s'il est à côté de nous. C'était impensable, inimaginable. Alors c'est sûr, il y a eu des progrès, et certains vont les vanter, ils sont nombreux, il y a aussi des avancées qui ont été vraiment bénéfiques pour le monde, mais dans le même temps, on se plaint aujourd'hui de l'individualisme de la société. On se plaint de l'égoïsme, on se plaint de ne plus connaître son voisin, on se plaint du manque d'amour, on se plaint de la cruauté humaine, qui est toujours la même, hein. On est au 21e siècle, il n'y a rien qui a changé. On se plaint des suicides, qui sont trop nombreux. On se plaint d'une société de plus en plus déprimée, toujours avec des antidépresseurs, surtout en France. On se plaint de la superficialité. Et on peut se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien quelque part dans tout ça ? Alors j'aimerais regarder un premier verset, c'est 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et versets 1 à 4. 2 Timothée 3 et versets 1 à 4. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je m'arrête ici. Est-ce qu'on ne voit pas là une description finalement de notre monde d'aujourd'hui ? Je vous encourage pas à regarder, mais simplement j'ai eu connaissance parce que les informations remontent vite. Hein. Mais quand vous regardez l'émission « Touche pas à mon poste », donc certains peut-être ne l'ont jamais vu, hein, vous voyez la réalité de cette description. C'est vraiment tous ces mots-là, vous les retrouvez. Parce qu'on y voit de l'orgueil, on y voit de la rébellion, on y voit de la cruauté, de la fanfaronnade, on y voit de l'insensibilité, on humilie, on se moque, on blesse, parce qu'on a le droit de rire de tout. Hein, on a le droit de rire de tout. Et donc, voilà, si vous regardez ça, mais c'est terrible. Et ce qui est tragique, c'est qu'une émission comme ça, eh bien, elle est regardée par la jeunesse, essentiellement. La majorité, c'est la jeunesse. Et on va normaliser des comportements qui sont inacceptables, qui sont coupables et inacceptables. Mais ça devient la norme. Hein. Ce qui fait que ça devient la norme aussi, après, parmi les jeunes. Et je vous parlais en introduction de poison que l'on diffuse à petite dose dans la société. Et c'est un poison aux multiples facettes. Quelque chose qui vient contaminer les esprits, quelque chose qui va venir influencer les comportements et les relations des hommes. Et ceux qui sont le plus exposés à ce poison, eh ben, c'est la jeunesse. C'est vraiment elle. Pas seulement la jeunesse, mais quand on se dit que c'est la jeunesse, et la jeunesse d'aujourd'hui, ben, c'est les adultes de demain, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Alors j'aimerais vous parler ce matin de plusieurs mensonges de notre monde moderne. On va voir quatre mensonges. Qu'est-ce que dit le monde? Le monde dit « Je t'offre un lien social sans limite ». Il dit « Je t'offre une gratification instantanée. Je t'offre la possibilité de te mettre vraiment en valeur. Je t'offre enfin l'occasion de gérer tes épreuves et ton stress de manière inoffensive. » Alors peut-être certains vont se trouver en décalage avec ce que je vais dire et partager ce matin, mais je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin dans la société dans laquelle nous vivons. Alors certains, eh bien, sont directement concernés. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de cette génération connectée, hein, d'aujourd'hui. Et d'autres, eh bien, ont des enfants qui le sont, ou des petits-enfants qui le sont. D'autres sont peut-être plus éloignés de tout cela. Mais c'est toujours bien de savoir ce qui se passe dans le monde et de savoir ce que Dieu dit. Alors d'abord, que dit ce monde? Il dit « Je t'offre un lien social sans limite, gratuit, avec des millions de gens. » C'est merveilleux. Les gens ressentent quand même l'amour qui se refroidit et pourtant les réseaux sociaux semblent dire l'exact contraire. Quand vous regardez ce monde connecté d'aujourd'hui, grâce à Facebook, il y a, en apparence, jamais eu autant de communication entre les humains. C'est incroyable, incroyable. 504 millions de tweets, vous savez Twitter là, 504 millions sont envoyés chaque jour. C'est un chiffre fou. Il y a des gens derrière qui sont en train de le faire. C'est pas automatique. 4 milliards de messages Facebook sont envoyés chaque jour. 16 milliards de textos sont envoyés chaque jour dans le monde. 16 milliards, chaque jour. C'est fou. Et donc, la communication, elle fonctionne bien, quoi, au 21e siècle. Hein? C'est incroyable. Mais est-ce vraiment une communication comparable avec celle de s'asseoir en face de quelqu'un et de parler avec quelqu'un de physique que l'on voit, avec qui il y a une interaction? Avec Facebook, on a facilement 40, 50, 100, 500 amis. Et pour les plus populaires, ben c'est 1000, 2000. Et puis, ça peut monter encore plus haut. Alors, peut-être il faut que j'explique pour l'ancienne génération qui n'a pas d'ordinateur, qui n'utilise peut-être même pas de portable. Donc, il faut quand même que je vous explique, parce que je ne veux pas vous perdre. C'est que par le biais d'un téléphone, donc qui est comme un petit ordinateur, on peut être ami avec des centaines de personnes. Une personne qui est juste à côté, un voisin, comme une personne qui est à 1000 km ou à 5000 km, c'est possible. Il suffit qu'on appuie sur un petit bouton pour dire « je veux être ton ami ». Et l'autre dit « ben oui, moi aussi, je veux bien être ton ami ». Et ça y est, on est amis. À ce moment-là, on est liés. Et on peut échanger des vidéos, on peut échanger des photos, on peut échanger plein de choses. Et puis parler et interagir l'un avec l'autre. Mais est-ce qu'on est dans le réel? Ou bien est-ce qu'on est dans un mensonge du monde? Un mensonge. Regardez Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18. Il est dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors bien sûr, Dieu écrit ça à un moment où il n'y avait pas encore de Facebook, hein, ça n'existait pas, mais ça c'est une vérité qui demeure dans le temps, c'est la vérité, la vérité. Il n'est pas possible d'avoir 1000 amis. C'est impossible, réellement. Même d'avoir 100 amis, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir des centaines de connaissances. Ah oui, mais un ami, ça c'est autre chose. Et la vraie amitié, elle ne peut pas se cantonner derrière un écran. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que tout le monde le sait, et même les jeunes le savent. Eh bien, c'est quelque chose qui est factice. C'est faux. C'est pas réel en fait, hein. C'est mensonger. Et le problème avec ce mensonge, c'est qu'on offre un lien social, certes, mais qui est complètement superficiel. Parce que sans savoir pourquoi, du jour au lendemain, votre ami n'est plus votre ami. Il suffit qu'il clique pour dire « je veux plus être ton ami » et c'est terminé, il l'est plus. Mais c'est normal, l'amitié... Elle n'existe pas quand on échange trois mots sur Internet. L'amitié, elle n'existe pas quand on aime bien un chanteur en commun. L'amitié, elle n'existe pas quand on a un ami en commun. C'est pas ça qui crée une amitié. Et ça touche à un sujet qui est plus profond, c'est celui des relations les uns avec les autres. On est appelé dans le monde à tisser des relations les uns avec les autres. Et c'est même quelque chose qui... Au revoir. C'est même quelque chose qui construit une personne. Ça construit une identité, une personne. L'enfant et l'adolescent se construisent, notamment en développant en dehors du cercle familial des amitiés. On se construit comme ça. Mais qu'en est-il quand les amitiés ne sont pas des vraies amitiés? Qu'en est-il quand on croit que l'on est aimé par le biais d'un réseau social, alors que ce n'est pas du tout vrai, c'est un mensonge? Qu'en est-il quand beaucoup de nos relations sont très superficielles? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, celui-là, plus attaché qu'un frère. Et donc l'amitié, la vraie amitié, elle se construit avec quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est réel, qui est physique. Elle se construit dans un partage des joies, des peines, des luttes, des soucis. Elle se construit aussi dans la fidélité, dans la durée. Ça ne devient sérieux qu'avec le temps, une amitié. C'est le temps qui l'éprouve. La Bible dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça signifie qu'une vraie amitié, bah parfois, c'est vrai, il y a des choses qui sont douloureuses. Il y a des vérités qui sont dites, il y a des blessures. Mais il y a aussi le pardon et il y a l'amour. Et c'est ça qui consolide véritablement l'amitié. Donc le monde te dit, je t'offre un lien social sans limite. Mais c'est faux, c'est un mensonge, c'est artificiel. Alors on va voir un petit peu plus loin les dangers par rapport à ça. Qu'est-ce que dit le monde? Il dit aussi, je t'offre une gratification instantanée. Tu as le droit d'avoir du plaisir tout de suite et de recevoir tout de suite. Et la société actuelle, elle développe l'impatience. Comment? En nous disant qu'on peut tout avoir tout de suite maintenant. C'est possible. Alors que Dieu veut former en nous la patience. La Bible nous dit, Jacques 1, et versets 3 à 4... Jacques chapitre 1... et versets 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli, sans faillir en rien. Et donc, Dieu travaille par les circonstances de notre vie et par l'épreuve de notre foi pour produire la patience en nous et puis pour nous rendre plus parfaits, plus à l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc, développer la capacité de savoir attendre, c'est bon. C'est bon. La Bible dit que c'est nécessaire pour se rapprocher de Dieu et se rapprocher de la perfection. Le monde, lui, nous dit le contraire. Il faut tout de suite, sans attendre. Alors, si on remonte un peu dans le temps, on connaît les prêts à la consommation depuis longtemps maintenant, ça fait plusieurs décennies. Au départ, c'était pour s'acheter l'essentiel, un réfrigérateur, une voiture, c'était des gros biens qu'un foyer n'arrivait pas à s'acheter s'il ne faisait pas un prêt. Aujourd'hui, c'est pour tout et n'importe quoi, en fait. Hein. C'est prenez-le, jouissez-en déjà gratuitement, puis on verra, vous nous paierez dans un mois, vous nous paierez, voire dans 2 mois. Alors, ça aurait pu en rester là, mais avec le développement d'Internet et le concept d'avoir tout de suite, ça a imprégné notre société. Et du coup, eh ben, ça se répercute sur plein de choses. Il faut une gratification instantanée. Aujourd'hui, j'ai envie d'un bien de consommation, n'importe quoi. Je regarde sur Internet avec Amazon Prime. Je clique. Le lendemain matin, je l'ai chez moi. Et hop, j'attends presque pas, en fait. Mais ça suffit pas. Alors, ils sont en train de dire, mais maintenant, c'est les drones. Il faut qu'en un quart d'heure, on ait reçu notre bien. Alors, ils font des essais aux États-Unis. Je ne sais pas si un jour la France verra ça. Mais vous voyez comment va le monde. Hein. Je me dis, c'est possible. Hein. C'est possible. Autrefois, la famille s'installait devant l'écran de télévision. Et on regardait la série hebdomadaire, hein, chaque semaine. Aujourd'hui, je veux un film. Je choisis mon film. Je l'ai immédiatement. Et je le regarde immédiatement. Dans une banque immense. C'est tout de suite. Il faut que je reçoive tout de suite. On peut aller plus loin, dire « Je me sens seul, je veux rencontrer quelqu'un. Ben, » il y a des sites de rencontre qui fournissent un service rapide, simple, efficace. Facile. Je ne trouve pas pour autant l'amour. On ne peut pas vendre l'amour. Mais voilà, il faut tout de suite, maintenant. Il faut aller vite. Et le danger, c'est que les enfants grandissent aussi avec cette pensée que tout est accessible rapidement, facilement, sans compter ceux qui sont gâtés à profusion. Hein. Et ça développe l'impatience. Après, quand les enfants grandissent, ils deviennent de jeunes adultes, ils veulent immédiatement un travail bien payé, à la hauteur de leurs études ou de ce qu'ils font. Voilà, ils ont des conditions déjà. Et s'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent, ben, ils ne sont pas prêts à prendre un autre travail qui est d'une qualification inférieure. Ils ne veulent même pas, certains. Parce qu'ils sont habitués à recevoir tout de suite. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ne viennent pas rapidement. Elles ne peuvent pas venir rapidement. Regardez Jacques 5 et verset 7. Ici, Dieu nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et donc, le Seigneur prend l'image d'un laboureur, d'un agriculteur, et il nous enseigne la patience. L'agriculteur, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Même s'il y mettait toute son énergie, il ne peut pas faire accélérer les choses. Hein. Il faut attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et puis, on attend que la graine sorte, et puis qu'elle pousse des feuilles, et puis finalement, elle pousse des fleurs, et qu'elle pousse des fruits. Tout ça, ça prend du temps. Il faut attendre, et il le sait, et finalement, eh bien, viendra la moisson, une fois que c'est mûr. Et c'est la même chose dans la vie. On est soumis à l'épreuve du temps pour plein de choses. Et le temps est nécessaire pour développer les choses qui comptent réellement. Ça, c'est important. Les choses qui comptent réellement prennent toujours du temps. Elles sont rarement très rapides. Quand vous regardez en matière de relations, d'amitié, d'amour, ça prend du temps. C'est toujours très très long. On apprend à aimer et à savoir aimer. Il faut du temps pour créer un lien, pour que ça se développe. C'est pareil dans un couple. Souvent, les premières années, ça grince, il y a un ajustement, des moments difficiles. Parce qu'aimer, c'est quelque chose qui s'apprend. Les choses précieuses, elles ne viennent pas comme un éclair. Et si Dieu, aujourd'hui, vous impose la patience, c'est qu'il est en train de faire une œuvre en vous plus belle que la simple gratification de recevoir ce que vous attendez. Il est en train de faire une œuvre qui est plus belle en vous. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3 et verset 5. C'était le verset qui était affiché tout à l'heure. Il dit « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Et Dieu prend les circonstances et façonne notre âme. Il veut changer nos cœurs et il veut nous rendre patients. Comment ? De la patience de Jésus-Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience de Christ. Parfois, on doit attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Christ, lui, a attendu 33 ans. Il est arrivé sur terre et puis, il a compris, en grandissant sa mission, tout cela. Il savait quelles étaient les affaires de son père à 12 ans et il a attendu. Attendu dans un monde de pécheurs autour de lui. Attendu dans un monde de souffrance, parce qu'il voyait bien cette souffrance humaine autour de lui. Et il a attendu. Patiemment, le temps préparé d'avance. Il fallait attendre qu'il ait 33 ans. Et on attend tous quelque chose. Moi, j'attends une signature. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles en son temps. Et il faut bannir l'idée d'une gratification instantanée. Recevoir tout de suite. Les choses précieuses sont celles qu'on attend patiemment. Ce sont elles finalement qui comptent vraiment pour une personne. Un autre mensonge. Qu'est-ce que dit le monde ? Il dit aussi « Je t'offre la possibilité de te mettre en valeur. » Je t'offre la possibilité de te mettre en valeur. Et par le biais d'Internet, par le biais des médias sociaux, des réseaux sociaux, on voit une jeunesse qui est décomplexée avec son image. Alors, on se prend en selfie. Je ne me moque pas. J'ai fait un selfie, il y a un selfie avec ma fille là. On se prend en selfie et en 2 clics, hop, on poste sa photo ou ses photos sur Internet. C'est très rapide. Et il y a un vrai problème avec cette génération qui s'affiche, mais d'une manière indirecte, par le biais d'un écran, par le biais d'un blog, d'un site Internet, de Facebook, d'Instagram et de tous les autres réseaux. Et il y en a beaucoup. Parce que qu'est-ce qui est mis en avant ? Qu'est-ce qu'on met en avant dans une photo ? Qui est publié. C'est la plus belle photo. C'est forcé. On met la plus belle photo. Celle qui nous met le mieux en valeur. Les défauts sont cachés. On va publier une photo où on est moche, où ça ne va pas. Et on paraît toujours sous le plus beau jour. Quand vous regardez les profils, c'est incroyable. La vie est merveilleuse. Je suis radieux. Le soleil brille. Ça, c'est l'impression que l'on donne, même si on est profondément déprimé. Profondément déprimé. Et derrière cela, il y a plein de problèmes. Il y a du narcissisme, il y a de l'égocentrisme, il y a de l'orgueil, parfois, de l'hypocrisie. Parce qu'on le sait, ce qu'on laisse paraître, c'est pas toujours ce que nous sommes réellement. Hein. Et on peut sourire sur une photo, mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand vous voyez une personne physique et que vous parlez avec elle, vous arrivez quand même mieux à discerner si elle va bien ou elle va pas bien. Bien sûr, certains cachent bien leur jeu. Mais quand vous parlez et vous prenez le temps de parler, « Oh, toi, tu vas pas très bien aujourd'hui. Hein. » Et voilà, ça se voit. Il y a des signes. Et finalement, avec tout ça, avec ces réseaux sociaux, on offre la possibilité de mettre un filtre, de mettre quelque chose devant nous, entre nous et la personne qui regarde. Alors, il y a une photo, il y a un cliché, il y a une parole cool, quoi, hein, comme les jeunes peuvent le faire. Et on paraît solide. Et c'est pas vrai. On est fragile. Hein. On est fragile. Et souvent, les personnes se mentent à elles-mêmes. Elles jouent un rôle. Parfois, certaines ouvrent les yeux et se disent « Mais c'est quoi ?» Et elles prennent conscience, mais beaucoup eh bien, jouent un rôle. Et on n'est plus dans la vraie vie. On n'est plus avec des vraies personnes qui affichent vraiment ce qu'elles sont. Combien de jeunes sont déprimés et personne ne peut le voir sur leur profil ? Ils ne le voient pas. Et c'est, vous savez, là encore, hier soir, il y a eu une information qui est sortie dans les... Terrible, quelque chose de terrible. Une jeune fille hein, qui s'est suicidée. Voilà, ça arrive. Mais la valeur d'une personne, elle ne dépend pas à son nombre d'amis sur Facebook. Ça ne dépend pas du nombre de vues de sa page ou de sa photo. Parce qu'on peut voir le nombre de personnes qui a vu telle publication, telle photo. Ou bien ça ne dépend pas non plus du nombre de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, on laisse des petits-enfants, des jeunes enfants, faire des vidéos sur YouTube. Elles sont innocentes, ces vidéos. Mais on les lance dans un processus, un esclavage, où on va regarder le nombre de vues, on va regarder le nombre d'abonnés. Et on devient addict de ça. On regarde et on regarde et on regarde et on regarde tous les jours. Ça devient comme une drogue. Et si l'audience est en baisse, si les amis s'en vont, si les commentaires ne sont pas gentils, eh bien, la personne là, ou l'enfant dit « Mais j'ai pas de valeur, j'ai plus de valeur. » Mais la valeur d'une personne ne dépend pas du nombre de regards d'inconnus sur notre vie. Ça n'a aucune importance. Et des gens qui ne m'aiment même pas, ça ne dépend pas de ça. Ma valeur, elle dépend plutôt du regard de ceux qui m'aiment et de Dieu qui m'aime. C'est ça qui est important. Et il faut se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi ? Quel est son regard sur moi ? C'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui donne de la valeur à une personne. C'est ça qui fait qu'elle est heureuse et épanouie. C'est de savoir comment Dieu la voit et comment Dieu l'aime. Alors ceux qui sont le plus connectés connaissent cela, mais j'aimerais le lire pour tout le monde. Je pense que ça nous édifie toujours. Quelqu'un a fait un recueil des versets, des pensées de Dieu sur l'homme en fait. Sur qu'est-ce qu'il pense de l'homme ? Qu'est-ce que Dieu dit à notre sujet ? Donc ça s'intitule « La lettre d'amour du Père ». Je vous la lis. Il dit « Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. » Donc ça s'inspire de plein de versets. Psaume 139, verset 1. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves, verset 2. Je te vois quand tu marches, quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies, verset 3. Même les cheveux de ta tête sont comptés, Matthieu 10, 29. Tu as été créé à mon image, Genèse 1, 27. Je suis le mouvement, la vie et l'être, Actes 17, 28. Je te connaissais même avant que tu sois conçu, Jérémie 1, 4. Je t'ai choisi au moment de la création, Éphésiens 1, 11. Tu n'étais pas une erreur, Psaume 139. Tous les jours, tous tes jours sont écrits dans mon livre, Psaume 139. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures, Actes 17, 26. J'ai fait de toi une créature merveilleuse, Psaume 139. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère, Psaume 71. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas, Jean 8, je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. 1 Jean 4, 16. C'est mon amour de Père que je répands sur toi. 1 Jean 3, 1. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. 1 Jean 3, 2. Je t'offre plus que ton Père terrestre pourrait jamais te donner. Matthieu 7, 11. Car je suis le Père parfait. Matthieu 5, 48. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Jacques 1, 17. Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Matthieu 6, 31. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. Jérémie 29. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Psaume 139. Et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Sophonie 3. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Jérémie 32. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Jérémie 32. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et de merveilleuses choses. Jérémie 33. Si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Deutéronome 4. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Psaume 37. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Philippiens 2, 13. Je suis capable de faire pour toi plus que tu pourrais probablement imaginer. Éphésiens 3, 20. Car je suis ton encouragement le plus grand. Deutéronome 2, 16. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. 2 Corinthiens 1, 3. Quand tu cries à moi, je suis plus près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Psaume 34. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. Ésaïe 40. J'effacerai toute larme de tes yeux. Apocalypse 21. Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Apocalypse 21. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Jean 17, 23. Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé. Jean 17, 26. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que Dieu pense de nous ? Et notre valeur n'est pas déterminée par notre physique que l'on expose sur Facebook ou ailleurs, ou par notre popularité sur les médias sociaux, mais par le fait que Dieu nous a créés. Et notre raison d'être, ben c'est lui. Nous existons parce qu'il nous a créés et parce qu'il veut avoir une relation avec nous. C'est ça qui est vraiment important dans la vie. Et la jeunesse, elle est déboussolée. Elle cherche une raison d'être. Mais cette raison, elle se trouve en Dieu. C'est Dieu qui nous donne notre raison d'être. J'existe parce que Dieu m'aime, parce qu'il m'a donné l'existence pour me le manifester. Enfin, un dernier mensonge de ce monde. Il dit, je t'offre l'occasion de gérer tes épreuves, ton stress, d'une manière inoffensive. Et je vous parlais tout à l'heure de l'addiction, et il y a vraiment une addiction à tout ce qui est les objets connectés et les réseaux sociaux. Alors j'ai écouté quelqu'un qui a fait une conférence qui était très, très intéressante, et qui l'explique bien, et il expliquait que l'engagement sur les réseaux sociaux stimule une réaction chimique naturelle qui est la dopamine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La dopamine. Et donc c'est quelque chose qui est sécrété naturellement par notre cerveau et qui agit sur les processus de la motivation, de la récompense, ce genre de choses. Par exemple, quand on écoute de la musique qui nous plaît, eh bien, ça nous fait du bien, on est content, il y a de la dopamine qui est sécrétée. C'est pour ça aussi qu'un jeune, il aime bien quand son téléphone il bip parce qu'il a reçu un texto. On s'intéresse à moi. Il y a quelque chose. Alors certains, le conférencier disait, envoie 10 textos en disant « Salut, 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 hi, hi, hi. » Parce qu'il va recevoir 8 ou 10 réponses de quelqu'un qui d'un seul coup se tourne vers lui. Et le même processus s'explique quand on reçoit un « j'aime » parce que quelqu'un a cliqué, parce qu'il aime votre photo, parce qu'il aime ce que vous avez publié et qu'il le fait suivre. Et on regarde bien le nombre de j'aime que l'on a sur des publications, etc. Et il y a une satisfaction dans le cœur. Et vous savez quoi ? C'est la même réaction chimique avec le tabac, avec l'alcool, avec certaines drogues, avec les jeux d'argent aussi. il y a une addiction. On devient drogué parce que ça produit de la dopamine, il y a une satisfaction, et puis ça devient un cercle vicieux et on devient accroché à ça. Il y a comme un soulagement. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, un fumeur, est stressé? Il a une épreuve, quelque chose. Hop, il prend une cigarette. C'est automatique. Et puis deux, et puis trois, puis quatre. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un problème avec l'alcool? Il vit une situation de stress, il se verse un verre. C'est automatique. Qu'est-ce qui se passe quand un jeune est accro aux réseaux sociaux? Ça ne va pas. Il se tourne vers les réseaux sociaux. Il va se plonger dedans, cherchant à trouver un soulagement. Et c'est comme ça qu'on voit des millions de gens collés à leur portable. C'est incroyable. Et dès qu'il y a une minute de libre, hop, on prend le portable. Tout de suite. Il y a une vraie addiction. Dans le bus, c'est le portable. Dans la salle d'attente, c'est le portable. Dans la rue, c'est le portable. C'est tout le temps le portable. Et on reste collé à son portable. Et ça devient une drogue. Et le monde se dit, mais c'est super quoi, on est tous connectés les uns aux autres. Mais la vérité, c'est qu'ils ne regardent plus dans la vie réelle autour d'eux. Ils ne regardent plus. Ils ne se parlent plus. Et parfois, on peut être avec des personnes physiques que l'on connaît. On peut être avec des personnes physiques. On est avec eux, en face d'eux. Et on est en train de parler avec quelqu'un qui est loin et qu'on ne voit pas. Et on n'est plus avec notre vis-à-vis, en fait, qui est autour de nous. Et c'est triste. Et plutôt que de se tourner vers quelqu'un de physique pour échanger, pour parler, pour se décharger, pour gérer ses épreuves, son stress, on se tourne vers l'abstrait, vers un filtre, en fait. Alors, j'ai lu qu'une étude établit un lien entre l'activité d'utilisatrice de Facebook et leur sentiment de solitude. Donc, en fait, ils disent que une activité croissante et importante sur Facebook serait un signe de dépression. Ils font le lien, en fait. Plus les personnes sont connectées, plus elles sont seules et ont tendance à développer de la dépression. Et c'est important de se poser la question, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, quel est votre premier réflexe? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites immédiatement? Vers quoi je me tourne ou vers qui je me tourne? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5 et verset 7. Il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et Dieu est une personne réelle qui veut apporter un soulagement réel quand on ne va pas bien. Et il faut avoir des réflexes. Les soucis, le stress, les difficultés, elles doivent nous conduire vers Jésus-Christ. Immédiatement, nous conduire vers Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous apporter un soulagement durable et profond. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai vraiment du repos. » Donc, il promet un apaisement, il promet un soulagement. Il veut nous donner son repos. Mais il y a une condition, un réflexe à acquérir, une habitude à prendre, c'est venir à lui. Dès que ça ne va pas, je viens à lui. Et si on n'a pas ce réflexe de se mettre tout de suite à genoux quand ça ne va pas, quand quelque chose ne va pas, on a besoin de l'apprendre. Parce que c'est certain que c'est une étape essentielle à la maturité chrétienne. On ne peut pas grandir et mûrir et devenir solide en Jésus-Christ si on n'a pas cette habitude, ce réflexe. C'est lui qui doit être au centre. C'est lui qui m'apporte le repos. C'est lui qui me décharge, qui me soulage. et qui me permet de me relever et d'espérer et d'avancer. Alors, je suis parmi les premiers à aimer la technologie et les appareils électroniques. Hein, je suis pas le dernier, hein, j'aime ça. Mais il faut avoir cette vision que le monde est à la dérive et qu'on est en train de nous vendre du mensonge. C'est du mensonge. Former des relations profondes, c'est pas possible au travers d'un écran. J'ai aussi un compte Facebook, hein, je vous le dis. Hein, je suis pas quelqu'un qui tire sans avoir un pied dedans. Un pied dedans. Mais il faut parler physiquement, il faut rencontrer les gens, c'est ça qui est vraiment important, échanger dans la vie réelle. De même, on ne peut pas être un vrai témoin de Jésus si on est collé à notre portable dès qu'on est à l'extérieur. Parce qu'on voit plus, on voit même plus les gens autour, on ne parle même plus avec les gens, on n'établit plus de liens, il n'y a plus de passerelles en fait. Il faut créer des passerelles, et les passerelles, ben, c'est avec les gens qui sont autour de moi, dans le bus, dans la salle d'attente ou ailleurs. Et on peut dire le monde connecté nous déconnecte de ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est important? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu premièrement, voilà, être connecté avec Dieu et puis connecté avec mon prochain qui est devant moi, qui est face à moi, physiquement. C'est par eux que je suis aimé et c'est eux que j'aime. C'est ça qui est important. Alors peut-être, on va prier, si quelques-uns veulent prier courtement, eh bien vous pouvez le faire librement.